cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 21 septembre 1995.
Normalement, ce cours de métaphysique devait se faire à 7h30. Il y a du retard, oui. Mais ce n'est pas le hasard. C'est parce que nos sœurs de Currières n'avaient pas de cours cette semaine. Alors, il fallait donner la béquille au petit moineau. Si on prend la viande ou les gros poissons. Une petite note, une petite question. Peut-on parler de ce qui n'existe pas? On se pose la question. On peut parler des possibles. On verra. En fonction de ce qui est. Je peux parler des possibles. Alors, le possible, c'est ce qui n'existe pas encore, mais ce qui peut exister. Et je peux parler aussi du néant. C'est ce qui n'est pas et qui, de fait, n'a pas possibilité d'exister. Le néant en soi. Possibilité d'exister. Cette première distinction qu'Aristote fait entre le non-être pris absolument, c'est le néant. Le non-être pris relativement, c'est le possible. Donc il faut distinguer ça. On verra comment cette distinction peut se faire. C'est la découverte de l'être en acte. Et de l'être possible qui permet de faire cette distinction. Le hasard existe-t-il? Ceci est traité en philosophie de la nature. On le traitera en philosophie de la nature. Le hasard provient de la cause matérielle. La cause matérielle qui est le possible fondamental pour le monde physique. Le possible radical pour le monde physique. Ce possible ne sera jamais épuisé. Et donc le hasard existera toujours. Mais il n'existe pas pour Dieu, mais pour l'homme. L'homme n'arrivera jamais à épuiser la cause matérielle. Elle est radicale. Elle est substantielle. Donc il y aura toujours la possibilité du hasard qui provient de la causalité matérielle qui n'est pas entièrement sous la domination de la cause finale. C'est en raison de la cause finale qu'on parle du hasard. Alors, le passé et le futur, c'est tout simplement la question du temps. Le passé, c'est ce qui a existé. Alors, ce qui a existé, je peux m'en souvenir, j'ai la mémoire. Je fais la philosophie de ce qui est, mais je peux faire la philosophie du devenir. Et dans le devenir est impliqué le passé, est impliqué le futur. Je peux, en fonction de ce qui est, parler du passé et du futur. Mais c'est toujours relativement à ce qui est actuel. Parce que ce que le philosophe regarde, c'est ce qui est actuel. Mais comme ce qui est actuel n'est pas éternel, il implique un passé et un futur. Et vous pouvez parler indirectement du passé et du futur. Le prophète regarde directement le futur. Parce qu'il a un regard divin. C'est la différence du regard du prophétique. Et le philosophe n'est pas prophète. Donc, il ne regarde pas le futur en soi. en philosophie première. Je vous ai rappelé la dernière fois, ou je vous ai dit la fois dernière, où se situait cette recherche de ce qui est en tant qu'il est. Jugement d'existence. Et je vous ai rappelé tout de suite que ce jugement d'existence peut s'appliquer à moi-même, je suis. Et qu'au fond, toujours, il y a les deux. Mais je ne commence ma philosophie première, c'est-à-dire la philosophie ultime, l'ultime regard sur l'homme, c'est qu'il est. C'est le regard le plus universel par où je suis en communion avec toutes les réalités qui existent. Ce regard est donc à la fois ultime, donc il transcende tout d'une certaine manière, parce qu'il est ultime. Et ce regard, en même temps, est ce que je saisis immédiatement maintenant. Ce que je saisis immédiatement maintenant, c'est ce qui est. Mais immédiatement après, il n'est plus. Le début du cours n'est plus, puisqu'il y a 5 minutes que ça a commencé. Oui, l'instant présent est fugitif, à la différence de l'éternité. Elle est fugitive. Mais j'atteins quelque chose qui n'est pas fugitif à travers l'instant présent. Je ne fais pas la philosophie, la métaphysique de l'instant présent. Je fais la métaphysique de ce qui est, que je saisis à travers l'instant présent. C'est ce qui est en tant qu'il est et qui est au-dessus du temps, au-dessus du passé et du futur. C'est le devenir qui est mesuré par le temps. L'être n'est pas mesuré par le temps. C'est capital de comprendre ça, hein. Je suis en métaphysique, je suis au-delà du temps. La métaphysique d'Aristote, lui qui a découvert justement cette connaissance de ce qui est en tant qu'il est quelque chose qui est au-delà du temps. Et quand vous saisissez quelque chose qui est, vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est que vous avez conscience psychologique du temps, de la durée. Et elle se distingue en présent, passé, futur. Vous pouvez très bien connaître ce que représente ce passé, ce présent et ce futur. Tous on peut connaître ça dans notre psychologie. Dans le jugement d'existence, vous saisissez quelque chose qui est au-delà du temps, qui n'est plus dans le temps. Qui est au-delà du temps, l'être, ceci est, et vous le saisissez en tant qu'il est, et donc vous le saisissez en tant comme il existe bien dans l'instant présent, mais je le saisis au-delà de ce conditionnement d'être dans le présent, dans le passé, dans le futur. Le temps n'est pas rattaché à l'être. Puisque le temps n'existe que dans l'instant présent. Donc, le temps passé, présent et futur est en deçà de la métaphysique. Je le saisis dans la philosophie du devenir. Alors, je comprends que je suis et ceci est. Sont le point de départ de ma philosophie première. Alors, réfléchissons un peu sur ce point de départ, parce que c'est important. C'est à savoir sur quoi je m'appuie. Qu'est-ce que je regarde ? je ne regarde pas l'homme comme homme. Je regarde l'homme en tant qu'il est. Faites nettement cette distinction. Et l'homme en tant qu'il est semblable à ce petit chat qui existe, à cette petite souris qui existe, à toutes ces réalités qui existent. C'est quelque chose de semblable et en même temps c'est différent. Et pour bien comprendre la différence, je dis ceci est je suis. Et quand vous dites je suis, vous atteignez quelque chose qui est. Donc vous rejoignez ceci est. Mais vous le rejoignez au-delà de ce mode particulier « je suis ». Si, de fait, je veux vraiment saisir, à travers le jugement d'existence, ceci est, ce qu'est l'être, je crois tout de suite qu'il vaut mieux commencer par « ceci est » et non pas « je suis ». C'est important de comprendre ça. Vous voyez, je ne me mets pas dans la ligne de Descartes. Sciemment. Parce que Descartes, lui, cogito ergo sum. Il ne dit pas cogito, donc ceci est. Ça aurait été plus intelligent. Mais il ne le dit pas. Il dit cogito ergo sum. Ça prouve que son cogito porte sur lui. Et non pas sur la réalité qui est autre. Il porte sur lui. Pour pouvoir dire cogito ergo sum, il faut découvrir dans son cogito, je pense, il faut découvrir qu'il existe. C'est juste, c'est très juste de dire je pense donc je suis, c'est évident. Si vous n'existiez pas, est-ce que vous pourriez penser ? Vous n'avez pas pensé. Donc, c'est juste de dire ça, mais je ne commence pas par la métaphysique, par le je suis. Le je suis n'est pas absent, il est présent, mais je ne commence pas par là. Pourquoi ? Parce que dans le je suis, le je absorbe l'existé. Je dis je suis, et l'exister. Moi, dans mon jeu. Par peut dire qu'on commence alors par la subjectivité transcendantale. Vous comprenez qu'elle est transcendantale par mode de négation. Puisque le « je suis » n'est pas le l'exister de l'autre. Elle n'est pas l'exister de tous les autres, même de Dieu. Donc il est complètement transcendantal. Il dépasse tout. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que l'être. Alors elle s'enfle, puis ça éclate. Parce que je suis obligé de reconnaître dans la réalité que les autres existent aussi. Donc il n'y a pas que je suis. Mais si je commence par moi, tous les autres me gêne. Vous voyez, l'autre, je ne le saisis que comme quelqu'un qui me limite. L'enfer, c'est l'autre. Hein, ce que Sartre dit. Et on voit très bien, parce que si je commence par le « je suis », l'autre est tout le temps quelqu'un qui me dérange. C'est parce que l'autre existe que je n'ai pas toute la place. Si vous étiez seul dans cette salle, je suis. Et tous les autres, non. J'ai pas besoin d'eux. Je suis. Et l'autre devient l'étranger, devient celui qu'on rejette, celui qui me gêne. Parce que c'est celui qui me conditionne, parce que c'est celui qui me limite, c'est celui qui m'empêche d'être l'absolu. Dès que vous dites que je suis, et en même temps vous acceptez qu'il y a un autre qui dit je suis, vous acceptez qu'il y a une relativité dans votre être, tout de suite. Et donc vous n'êtes plus l'absolu. Et c'est très gênant. Donc je ne peux pas commencer ma métaphysique par le je suis. Je peux commencer ma métaphysique par ceci est. Pourquoi ? Parce que quand je dis ceci est, je puis objectivement comprendre que le ceci peut être le chat, peut être la vache, peut être celui qui est à côté de moi. Tu es. Dans le ceci, le tu est présent, le je suis est présent. Je relativise le sujet. Ah, c'est ça qui est très curieux. En relativisant le sujet, je le dépasse. Vous savez bien, pour dépasser quelqu'un, il faut le relativiser. Tout simplement. Hein. Tant que quelqu'un n'est pas relativisé, vous ne pouvez pas le dépasser. Il apparaît comme un absolu. Vous savez, quand vous êtes derrière un gros camion, il prend tout l'espace. Vous êtes tout près de lui. Vous ne pouvez pas regarder à droite et à gauche au-dessus. Impossible. Il prend tout. Vous ne pouvez pas le dépasser. Vous êtes obligé de prendre du recul, de le relativiser à droite et à gauche. Ah, je peux passer. On fait ça couramment. Hein. Réfléchissez là-dessus. D'habitude, faites ça instinctivement. Et c'est très bien de le faire instinctivement. Mais c'est ça qu'on fait. On relativise pour dépasser. Pour ne plus m'inquiéter de ce gros camion qui est ceci. Le ceci peut être un gros camion. Il existe, c'est évident. Si ce camion, il est là, il n'existe pas. Mais il n'existe pas, alors passez. Non, il existe. Je vais me casser la tête sur... Donc, il existe. Mais il faut le dépasser, il faut le relativiser. Ah, ça, c'est ça qui est très très curieux et qui est très intéressant. Quand vous comparez le ceci et le je suis, vous avez ici Aristote et vous avez ici Descartes. Ah, c'est amusant. Et vous comprenez qu'on va chambrer Descartes parce qu'on ne peut pas le dépasser. On reste tout le temps dans Descartes. C'est un peu ennuyeux de rester tout le temps dans Descartes. C'est un gros camion, mais c'est un peu... J'ai envie de voir autre chose. Mais c'est ça. intéressant parce que c'est le je suis. Cogito ergo sum. C'est la conclusion. Je m'installe, c'est mon bon fauteuil. Je ne cogite que quand je suis. Oui, c'est bien évident. Donc je ne cogite que quand je suis bien assis en moi. Je suis. Tandis dans le ceci, ceci est. C'est ça qui est admirable. C'est que dans le ceci est, ceci peut être n'importe quoi. Puisque dans ceci est, je regarde et je peux très bien faire ça. C'est-à-dire, je peux relativiser le ceci à et. Et non pas l'inverse. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est cette petite remarque. Ceci est relatif à et. Le je ne peut pas être relatif à je suis. C'est l'être qui est relatif au je. Ceci, c'est pour montrer pourquoi on revient à Aristote et on laisse Descartes de côté. Bien que Descartes soit beaucoup plus proche de moi qu'Aristote. Donc si c'était par connaturalité, je dirais, oh, soyons avec Descartes, il est plus proche quand même. Il y a une évolution. Descartes vient bien après d'Aristote, donc il est sûrement beaucoup plus intelligent qu'Aristote. Ah oui, l'évolution de la pensée n'est pas toujours la même que l'évolution économique. Et même souvent, ça va en sens inverse. C'est curieux, mais c'est comme ça. L'évolution économique, elle est merveilleuse aujourd'hui, étonnante. Il y a des carottes pendant toute l'année, c'est extraordinaire. C'est une évolution, c'est merveilleux. C'est pour être plus grand. Mais la carotte devient tout. Alors, c'est la grande économie. Alors, oui, mais alors, il n'y a plus qu'à carotte, il n'y a plus ceci. Et c'est la carotte qui existe. Alors, dans le ceci est, ceci est relatif à et. Il peut se relativiser à et. C'est ça qui est très curieux. Évidemment, je fais un effort de pensée. Qu'est-ce que je cherche? Je ne cherche pas à connaître le ceci. Ça m'égale. Ça m'est égal. Il peut être n'importe quoi, ceci. Lavage de cochon. N'importe quoi. Ce qui m'intéresse, c'est « et ». C'est ça, la philosophie première. On s'intéresse à ce qui est. Et on s'intéresse uniquement à ce qui est. Je vois que si je commence par « je suis », je ne peux plus saisir ce qui est en tant qu'il est. Je ne peux saisir ce qui est en tant qu'il est que si je commence par ceci est. Pourquoi? Ah, parce que justement, dans l'expérience de ceci est relatif à est. Je peux donc mettre entre parenthèses ceci et ne regarder que est. Tandis qu'ici, je ne peux pas mettre entre parenthèses le « je » et regarder le « suis ». Vous voyez comme c'est curieux, ça, hein ? Bon, c'est la première remarque. Okay. Comme elle est première, elle est fondamentale. C'est très très important de savoir où est le commencement de ma recherche. Si je ne vais pas jusque-là, je m'enferme tout de suite en moi. Et je ne vais pas loin. Je vois que donc seul, ceci est en raison même de l'anonymat du ceci, il peut être n'importe quoi. C'est « et » qui m'intéresse. Alors, petite remarque, tout de suite. Selon le langage, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de la philosophie du langage, selon le langage, dans ceci est, c'est ceci qui est le nom. Et est le verbe. Analyse grammaticale. Or, le verbe est relatif au nom. Donc, selon la philosophie du langage, je ne peux jamais entrer en métaphysique. La métaphysique n'existe plus dans la philosophie du langage. Pourquoi ? Parce que le nom n'est pas le verbe. Le nom est l'absolu. Le verbe est relatif au nom. Or, c'est curieux. L'être, dans mon langage, est un verbe. Il n'est pas un nom. Il est un nom. Quand je le prends selon un mode infinitif, je dis être. C'est l'infinitif de est. Et le présent est être. Parce que l'infinitif a ce privilège parmi les verbes de poser le verbe en absolu. Et petite philosophie du langage, très rapide, mais très simple, et qui est importante aujourd'hui. Parce que si vous restez à la réflexion du langage, vous n'entrerez jamais en métaphysique. Et donc deux portes qu'on ferme. La porte de Descartes et la porte de la philosophie du langage. La philosophie du langage va, en mettant la logique aussi, jamais par la logique vous n'entrerez dans la philosophie, dans la métaphysique. Pourquoi ? Parce que la logique repose sur le langage. Elle ne repose pas sur la réalité, c'est le langage. La proposition. Or, dans la proposition, ceci est le verbe en logique est toujours un attribut. Si le verbe être est verbe, si l'être est un verbe exprimé par un verbe, il est donc exprimé comme relatif. Ça, c'est aussi très important. N'oublions pas. Parce que ça, c'est très très important de se le rappeler. N'oublions pas qu'à partir du 14e siècle, chrétien, Occam, un franciscain de Londres, la logique et la métaphysique. Il a ramené la métaphysique à la logique. Donc, à partir de Occam, il n'y a plus de métaphysique. Parce que le verbe est regardé toujours comme relatif au nom. Et vous ramenez tout au nom, et non plus à ce qui est. Vous voyez donc que dès le point de départ, il faut dépasser deux grandes philosophies, ou une théologie et une philosophie, celle d'Occam, celle de Descartes. Et si je réfléchis bien, je verrai qu'entre Descartes et Occam, il y a un lien très fort. C'est très curieux. Au fond, Descartes dépend de Occam. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait deux portes qui sont fermées. Et la dépendance de Occam et de Descartes est très facile à comprendre. Quand on pose à Descartes quel est le point de départ de votre philosophie, cogito. Demandez à Occam quel est le point de départ de votre philosophie, intelligo. Vous avez ici le intelligo. Donc Occam, 14e siècle. Et Descartes, cogito. Quelle différence y a-t-il entre le cogito et intelligo ? C'est le point de départ de sa philosophie. C'est le point de départ de toute sa vie spirituelle. J'intellige et j'aime Socrate. Alors, comme Descartes n'est plus franciscain, il fait tomber l'amour Socratem. Et il ne va plus que cogito, ergo sum. Il y avait l'avantage de Occam, c'est que, étant franciscain, il ne pouvait pas rester uniquement dans l'intelligence. Il fallait l'amour. Et grâce à l'amour, il regarde l'autre. Socratem. Amour Socratem. C'est très curieux, ces choses-là. Mais vous voyez, c'est très intéressant, parce que dès qu'il y a une petite déviation au point de départ, il y aura une énorme déviation au terme. Et c'est vrai.
Siècle de critiquer Descartes. Non, c'est absolument pas.
importe. Mais on n'avait pas le droit de le critiquer. C'était l'idole. Aujourd'hui, on a dépassé l'idole. C'est sûr. On a le droit de dire que Descartes, oui, très bien, mais il faut le dépasser. Il faut le dépasser de quelle façon? En allant plus loin que lui. Hegel, je dépasse Descartes. Venez, Hegel. Ou bien, je le dépasse en revenant à la source et montrer la déviation de Descartes. Tout dépend si vous cherchez la vérité. Si vous cherchez la vérité, vous voyez l'erreur de Descartes. Et donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur lui. Je ne peux pas m'appuyer sur un tronc pourri. Il est dans l'erreur. Je peux pas. Absolument pas. Je peux m'appuyer sur le roc. Ça tient la route. Alors je dois regarder quel point de départ Descartes, le point de départ de la métaphysique chez Descartes, chez Aristote. Et voir, alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Voir que si je prends ce point de départ chez Aristote, ceci est. Et c'est pas parce que c'est Aristote, c'est parce que c'est la vérité. Et vous allez comprendre tout de suite. Si je prends ce point de départ, ceci est, en tant qu'il est. Si c'est ça que je cherche. Et ce point de départ me permet d'assumer le je suis. De la métaphysique. Et c'est ce que nous ferons. Au terme de la métaphysique, j'assume le je suis. Donc, je ne l'ignore pas, au contraire, mais je le regarde dans la lumière du ceci est. Et je ne le regarde pas en premier lieu. Je le relativise par rapport à ceci est. Ceci est contient le je suis. Il suffit de l'expliciter. Et si le je suis contient, si le ceci est contient le je suis, j'ai une seule métaphysique. Mais dans cette métaphysique, il y a l'explicitation du je suis. Tandis que si je commence par ceci est, je n'assume plus le ceci est. Donc si je commence par je suis, je n'assume plus ceci est. Je ne peux pas rejoindre ceci est par le je suis. Ça c'est assez facile à comprendre. Puisque dans le je suis, l'être est absorbé par le je. Et donc je ne retrouve plus ceci est. Ou l'être peut être regardé pour lui-même. Or, l'être regardé pour lui-même, c'est pas l'être absorbé par le moi. C'est pas absorbé par le je suis. Or, la connaissance philosophique est la connaissance qui doit être la plus exhaustive dans son terme, dans son sommet. Doit pouvoir tout atteindre dans l'homme. Elle doit pouvoir atteindre l'homme dans l'univers. Elle doit pouvoir expliquer comment l'homme est celui qui domine l'univers et celui qui est dans l'univers, celui qui est dans le temps et qui dépasse le temps. Il faut que la philosophie puisse aller le plus loin possible dans la connaissance de l'homme. Si je reste dans le je suis, je ne peux plus comprendre comment l'homme fait partie de l'univers. Parce que l'univers n'est pas le je suis. Je ne peux plus comprendre ce que représente les activités typiques de l'homme, transformer le monde. Le je suis n'explique pas cela. Puisque pouvoir transformer. transformer le monde, il faut reconnaître ce qu'est le monde, autre que moi. Donc, vous voyez, si je commence par le « je suis », je m'enferme en moi-même. Si je commence par ce « ciel », je m'ouvre au « je suis ». Et cela me permet de regarder tout ce qui est autour de l'homme, tout ce qui fait partie de l'homme, mais qui n'est pas directement son « je suis ». Et là, il y a donc un problème extrêmement important. Si on veut comprendre que nous faisons de la philosophie à la fin de ce siècle, où on ne sait plus où l'on va, c'est net, on ne sait plus où l'on va. Donc il faut préciser avec netteté le point de départ. Préciser avec netteté ce point de départ est capital. Alors, il faut en avoir l'évidence. Tant qu'on n'en a pas l'évidence, on est obligé de s'appuyer sur ce que dit le professeur. Or, vous savez qu'en philosophie, l'autorité est la dernière des raisons. On se sert de la canne de l'autorité quand on ne sait pas grand-chose. Et c'est très bien, c'est très noble. Je veux avancer, j'accepte. Je suis au commencement. Je n'ai pas... On m'aurait dit, est-ce que vous optez pour Descartes ou Aristote ? Oh, j'aurais bien réfléchi. Je devrais faire ce petit test, oui, au début. Hein. 5 minutes de silence. Réfléchissez. Il y a un petit papier sur votre... Puis écrivez. Voulez-vous qu'on commence la philosophie en s'appuyant sur Aristote, le père de la métaphysique ? Ou s'appuyer sur Descartes, qui est une déviation magistrale, puisque de fait, en m'appuyant sur Descartes, je m'ouvre à la philosophie contemporaine. Alors lequel faut-il prendre ? Faites votre choix. Alors on aurait un premier cours, ceux qui disent Aristote, même s'il n'y en a qu'un. Pas de question. Et puis ceux qui appuient sur Descartes. Et on commencerait par démolir cette déviation en montrant que c'est une déviation et qu'on s'enferme dans un égocentrisme absolu. Je les regarde. Ce qui est très bon, c'est intéressant ça à voir historiquement, c'est que les pères jésuites, ils sont toujours un peu pour la modernité. Les pères jésuites ont demandé à Descartes de faire un traité sur l'Eucharistie, d'appliquer sa philosophie à la théologie. Et alors, quand vous prenez ce traité de Descartes sur l'Eucharistie, vous voyez que ça devient contraire à la foi chrétienne. Si vous servez Descartes pour faire une théologie chrétienne, vous allez complètement déborder sur le champ d'à côté. Et on comprend très bien. Descartes, je suis. Dans l'évangile, Jésus dit je suis. Bien que Descartes est tout à fait disciple du Christ. Il dit je suis à la suite du Christ, mais il ne le dit pas du tout de la même façon. C'est ce que Gilson a remarqué admirablement pris le petit dictionnaire de Descartes. Il a vu que Descartes employait tous les mots de la scolastique et qu'il donnait à tous ces mots une nouvelle signification qui n'était plus du tout la même. Vous voyez ? Alors le mot extérieurement est resté le même. Et donc, les perroquets ont continué de tout ce qu'ils avaient appris. Ils continuent de le dire, parce que les mots sont les mêmes. Mais la signification est totalement différente. C'est l'avantage du perroquet, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que la signification. Il ne sait plus que le mot. Et Descartes a engendré des perroquets qui répètent sans savoir la signification. Ils répètent les mots. Vous trouvez dans Sartre le mot quidité, qui est Aristote, qui est scolastique. Vous trouvez le mot substance, qui est dans la scolastique. Vous trouvez acte, qui est dans la scolastique. Tous les mots y sont. Il y a une nouvelle signification. Et si on les répète avec cette nouvelle signification, perroquet, perroquet de Descartes, on répète ce que Descartes a dit, on ne comprend pas. Oui, c'est très très important de réfléchir sur ce point de départ de la philosophie, de la métaphysique, de la philosophie première. Ceci est, je suis. Descartes Occam. Oui, il faut que vous y réfléchissiez pour que nous puissions ensemble comprendre que la philosophie première commence par ceci est, en tant qu'il est, et que c'est vraiment cette recherche et cette analyse de ce qui est en tant qu'il est que nous faisons, et non pas commencer par le je suis. Le je suis demeure tout le temps. C'est bien évident, parce que c'est moi quand même qui pense. C'est moi qui fais la métaphysique. La métaphysique, elle ne naît pas comme comme les autres réalités, comme les mauvaises herbes. Elle ne naît pas comme les choses artificielles. Elle naît dans ma pensée. C'est un fruit de mon intelligence. Et c'est le fruit le plus excellent de mon être.